sur l'histoire et l'archéologie. Pourquoi ? Un désir accru de savoir caché en chaque être. Au siècle qui est le nôtre, nous sommes de plus en plus curieux d'un certain passé, de certaines traditions en voie de disparition, de nos sources même, qu'elles soient historiques, philosophiques, géographiques, ethnographiques, etc., etc. Molière précisait d'ailleurs ce désir, de faire entrer chez vous le désir des sciences, de vous insinuer les belles connaissances. Et ajoutait La Rochefoucauld, pour bien savoir les choses, il en faut savoir le détail, et comme il est presque infini, nos connaissances sont toujours superficielles et imparfaites. Dans un souci constant de développer cette curiosité innée de l'individu, et pour essayer de répondre à cette soif de savoir, nous avons imaginé d'introduire cette notion de cours par la radio en abordant non seulement l'enseignement des langues, mais également d'autres disciplines, comme par exemple l'archéologie, la géographie, l'ethnographie et l'histoire de l'art. À partir d'aujourd'hui et chaque premier vendredi du mois, vous pourrez revivre la traversée de l'Atlantique, l'ouverture ou la fermeture du Grand Fossé. Il fallait une foi, celle de l'homme dans le génie de l'homme. Voilà pourquoi Maurice Efti consacre son premier chapitre aux découvreurs et à Christophe Colomb en particulier, car ses découvertes méritent d'être qualifiées de grandes. Je ne veux pas empiéter sur le sujet, mais vous suggérez de suivre attentivement cette première émission. Si vous désirez des indications complémentaires, nous tenons à votre disposition des sources bibliographiques pour mieux vous aider à comprendre. Et en outre, vous avez la possibilité de participer à un concours qui, pour commencer, s'étendra jusqu'à la fin de l'année 1980, c'est-à-dire décembre. Vous pouvez d'ailleurs participer à cette émission en nous appelant au 022 20 98 11 dès 10h30. Le temps pour nous de situer le sujet dans son contexte historique et le temps pour vous de nous apporter vos compléments, pourquoi pas, ou bien vos interrogations. Ce concours vous permettra de gagner un voyage culturel au Mexique l'année prochaine si vous répondez à toutes nos questions. Je crois qu'il ne faut pas que je vous en dise plus, sinon qu'à partir du 15 septembre, nos portes ouvertes s'ouvriront à 9h15 sur Radio Suisse Romande 1, sur demande, et que le développement, vous le découvrirez sur Radio Suisse Romande 2 à partir de 10h, comme aujourd'hui. Maurice Efti, vous êtes en direct à notre micro. Vous êtes anthropologue, archéologue?
Anthropologue, oui, j'ai fait de l'archéologie et de l'ethnographie.
Je crois qu'il faut tout de suite situer notre débat d'aujourd'hui par rapport aux découvreurs, c'est-à-dire Christophe Colomb. Il y a une foule de questions qu'il faut poser, mais l'intérêt est vraiment de situer cette grande découverte. Alors, ce nouvel intérêt pour l'Amérique latine s'est développé au cours de ces dernières années, et vous le savez parce que vous voyagez beaucoup. Il serait donc utile de chercher à partir de quels éléments s'est formée cette culture latino-américaine et quelles en sont les différentes origines.
La discussion passionnante qui a repris depuis effectivement fort peu de temps à propos de la culture latino-américaine nous oblige à remonter assez haut dans son histoire. Elle nous oblige à chercher, ou plutôt à dégager, l'originalité des différents héritages qui ont permis son éclosion. L'héritage amérindien, tout d'abord. Cet héritage qui peut être précolombien ou indien, il était légitime, mais il a été très vite appelé à disparaître physiquement, tout d'abord, bien sûr, par l'anéantissement de la race indienne, politiquement, en tout cas. La suppression des anciennes structures fut souvent radicale, au profit des institutions coloniales. Bien, le deuxième apport est l'apport hispanique. C'est l'héritage importé par ces milliers d'aventuriers qui, peu à peu, vont prendre souche aux Indes occidentales, ces Espagnols, qui, dès leur installation, n'en deviennent pas moins des Américains. Des Américains dont les fils ont cessé d'être Espagnols pour être avant tout des créoles, puis mélangés aux indigènes, de véritables latino-américains. Eh bien, pour comprendre l'importance de ces premiers arrivants et surtout le développement ultérieur de la culture latino-américaine, il faut avant tout découvrir l'Europe, ou plutôt l'Espagne du XVe siècle, celle des découvreurs. L'Espagne, eh bien, elle est aussi pénétrée d'origines diverses. C'est ici, dans la péninsule, qu'ont coexisté pendant des siècles les chrétiens, les maures, les juifs, qui tous, au fond, sont espagnols. Ils se sont influencés mutuellement, ils se sont influencés fructueusement, et l'Orient, l'Afrique, l'Europe se mêlent ici en toute harmonie. Au Moyen-Âge, la société arabe avait créé une civilisation raffinée, la plus raffinée au monde. Cette culture arabe était donc bien supérieure à la culture latine. Par l'Espagne, oui, l'Espagne, cette porte vers l'Afrique, cette porte de l'Asie même, ont pu pénétrer des idées nouvelles, des idées régénératrices. Elles sont déterminantes pour l'épanouissement de la philosophie, de la littérature, des sciences et même des techniques européennes. L'Espagne est un pont entre les mondes islamiques, grecs, indiens. Les contributions apportées, ces contributions qui étaient déjà assimilées depuis longtemps par les Arabes, eh bien ces contributions seront nombreuses. Enfin, le zéro et les mathématiques restent pour nous les plus connus. Mais, comme le dit Pierre Villers, eh bien à cette époque, l'Espagne vit aussi la reconquête. Reconquête contre les infidèles, la reconquête de son territoire, cette reconquête du dernier bastion arabe en Europe. Dès le XIIIe siècle, l'influence des Juifs et des Arabes se fait sentir un peu partout. Oui, l'influence des Juifs est sensible dans les hautes sphères, auprès des grands, auprès des rois. Les Arabes, en général, ce sont des paysans, des artisans, se sont mis surtout au service des nobles chrétiens. Ces influences deviennent vite difficiles à supporter. Elles excitent la jalousie. Oui, la jalousie de certains chrétiens, ceux des classes populaires, ceux de vieilles souches chrétiennes. L'orgueil. L'orgueil des origines, de la pureté de sang, la fameuse limpieza de sangre. Tout ceci n'est qu'une compensation pour les chrétiens. La compensation des vainqueurs de la reconquête, ces vainqueurs qui craignent pourtant cette supériorité matérielle qui est parfois beaucoup trop sensible, trop importante chez les vaincus, chez ces juifs, chez ces arabes. L'Église aussi est sur ses gardes. Oui, l'Église, elle a peur, elle craint pour la foi car les hérésies menacent le monde catholique. À plus forte raison l'Espagne qui depuis trop longtemps est pénétrée d'esprits juifs ou morts. En 1478 s'installe le tribunal de l'Inquisition. Tribunal qui luttera contre les nouveaux chrétiens, les nouveaux convertis, ces juifs, ces arabes qui ont été obligés à embrasser la religion chrétienne, ces convertis suspects, des convertis suspects pour la toute sainte Inquisition. Mais il manquait quelqu'un à l'Espagne. Quelqu'un qui soit capable d'unir l'Espagne. Qui soit capable de relancer, de réunir toutes les aspirations des chrétiens désirant cette unité. Ce sera une femme, Isabelle, Isabelle la catholique. Elle est l'archétype de la reconquérante contre les juifs et les morts. Elle représente la moralité contre les mauvaises mœurs qui avaient déjà été dénoncées par l'Église. Elle annonce l'unité espagnole grâce à son alliance avec Ferdinand d'Aragon. Ainsi, par cette union, Isabelle de Castille ouvrira l'ère d'une Espagne moderne, celle des rois catholiques. Et pourtant, curieusement, l'esprit de cette époque, enfin l'esprit, restera foncièrement médiéval. On restera axé sur cette reconquête qui se transformera, dès la prise de Grenade en 1492, en conquête. C'est une suite logique d'une politique religieuse qui allait s'étendre aux nouvelles colonies, elles aussi peuplées d'incroyants, d'infidèles. Oui, même à l'aube du XVIe siècle, on songera avant tout à une extension territoriale, grâce aux colonies, enfin ces colonies d'outre-mer. Ainsi qu'à cette expansion religieuse, sans tenir vraiment compte d'une ambition commerciale ou économique. Et c'est curieux. Ce désintéressement, si profondément opposé au phénomène naissant du capitalisme, ce désintéressement fera pourtant l'originalité, puis ensuite la grandeur de l'Espagne. La nation, par son extension, sera bientôt à son apogée, mais c'est aussi à cause de ce désintéressement que naîtront la plupart de ses faiblesses. Ce triomphe, c'est un triomphe éclatant, est né à l'ascension des rois catholiques. Il est si rapide, si soudain, qu'il ne durera que fort peu de temps. Après le succès, la décadence, bien sûr. Cette décadence qui suivra, qui n'en sera que plus profonde. Le monde change. Oui, le monde autour de l'Espagne change. Déjà sous le règne de Carlos I, Charles Quint, l'Espagne ne s'adapte pas. Et on pourrait penser que son unitarisme religieux en est en partie responsable. Ailleurs, le triomphe du protestantisme est lié au développement du capitalisme. L'Espagne les ignore tous deux. Oui, elle ignore à la fois ce capitalisme et ce protestantisme. Jusqu'au jour où elle sera vaincue. Enfin, où sera vaincue l'invincible armada. Dès 1588, l'édifice est ébranlé. La puissance ibérique est à son déclin, il en restera quelque chose, il en restera cet orgueil national, un orgueil d'avoir été une grande puissance. La découverte de l'Amérique aurait pu mettre l'Espagne au premier rang du monde économique moderne. Elle n'a jamais occupé ce rang. Elle s'est contentée d'être la première en date, oui, la plus importante des nations fondatrices d'empires, d'empires coloniaux. On comprend dès lors l'importance, mais aussi les faiblesses de l'héritage que les premiers découvreurs ont transmis à l'Amérique il y a bientôt un demi-millénaire.
Maurice Efti, après cette première amorce historique du contexte historique espagnol par Isabelle et Ferdinand, est-ce qu'on sait dans quel climat et dans quelles conditions furent effectuées ces premières grandes découvertes et qu'est-ce qui a poussé ces grands navigateurs vers l'inconnu? Il n'y avait pas que Christophe Colomb, je pense.
Oui, oui, en somme, pour comprendre ces navigateurs du XVe siècle et ensuite du XVIe siècle, eh bien, il suffit de se replonger dans l'ambiance, enfin, l'ambiance de cette époque qui les a vus naître. Stefan Zweig prétend qu'au commencement étaient les épices. Oui, au commencement étaient les épices.
Lesquelles?
Après les échecs des grandes croisades qui cherchaient à libérer Jérusalem, le tombeau du Christ, après ces échecs, on n'avait toujours pas pu supprimer l'hégémonie de l'islam. Cette insolente hégémonie qui bloquait les transits de ces denrées précieuses dont nous allons parler, ces denrées précieuses venues de l'Orient. Obtenir, pour répondre à votre question, le poivre, la cannelle, le musc, l'ambre, le camphre, la gomme, le girofle, la muscade, le thé, le café, les toniques, l'encens, pour toutes les églises de la chrétienté. Obtenir toutes ces richesses, eh bien, c'était aussi le but des croisades. Il fallait donc découvrir des voies maritimes nouvelles, des voies franches, où aucun droit ne puisse être perçu par les sultans arabes, comme le sultan d'Égypte. Eh bien, ceci incita Henrique du Portugal, celui qu'on a surnommé Henri le navigateur, à chercher, oui, Henri a cherché cette nouvelle voie. C'est donc grâce à cette impulsion due à des facteurs matériels qu'allaient voir le jour les premières expéditions en direction du pays des épices. Dès 1486, en passant pour la première fois le Cap des Tempêtes, celui qu'on allait appeler le Cap de Bonne-Espérance, eh bien Bartolomé Dias permettait au Portugal de devenir la nation la plus enviée d'Europe. Sous João II, Jean II, celui qu'on appelait le Parfait, eh bien son royaume allait faire office de guide de l'humanité. Lisbonne avait enfin trouvé la voie de la richesse. Celle qui allait la conduire par l'océan Atlantique, le long des côtes de l'Afrique, vers l'océan Indien, océan baignant le pays des merveilles, ce pays décrit par Marco Polo dans sa prison génoise. À propos de Génois, Jean II, qui vient de trouver la bonne route pour se rendre aux Indes, se demande pourquoi il devrait risquer son argent, pourquoi il devrait risquer de bons et solides ducats portugais. Pourquoi montrer de l'intérêt pour ce Christophe Colomb?
Jalousie?
Christophe Colomb qui d'abord lui réclame des vaisseaux, bien sûr, pour gagner les Indes par l'Ouest, alors qu'on se rappelle bien, enfin on se rappelait déjà au Portugal, à l'Espagne, que toutes les expéditions faites en direction des légendaires et des fabuleuses Antilles ou du Brésil avaient échoué lamentablement. Après les Açores, rien ne prouvait qu'il y eût d'autres terres. Les Portugais le savaient, ils étaient les maîtres des mers. Eh bien, oui. Pourquoi l'Ouest, si l'on vient à peine de découvrir l'Est? C'est la raison pour laquelle João II n'a pas répondu à Colomb. L'Asie, c'est par l'Afrique qu'il faut l'atteindre, c'était évident. Aucune réussite ne peut être due au seul hasard. Celle du 12 octobre 1492, moins que tout autre. Et pourtant, oui, que d'événements. Que d'événements se sont passés en 30 ans après la découverte de Colomb. En moins d'une trentaine d'années, les quelques centaines de petits vaisseaux partis de Palos, de Cadix, de Séville, de Lisbonne, allaient découvrir plus de continents que l'humanité entière au cours des siècles précédents. À la fin de ces trois décennies, l'homme allait enfin découvrir la planète. Il se donnait à lui-même une nouvelle dimension, une autre dimension. 1492-1522, 30 ans. Le 6 septembre 1522, du château du duc de Médina, on vit entrer dans le port de Sanlúcar de Barrameda une caravelle. Ou plutôt, ce qu'il en restait. Deux de ses mâts avaient été brisés, ses voiles étaient déchirées. On a même un peu de peine à deviner les grandes croix rouges de Saint-Jacques qu'elles arborent. Oui, Santiago, eh bien, c'est le protecteur de l'Espagne, le protecteur de ses marins audacieux et des premiers conquérants. Curieusement, seuls quelques hommes s'affairent sur le pont du bâtiment. Souvent, le long des berges du Guadalquivir, on a assisté à de tels spectacles. Mais d'où peut bien venir cette épave? Oui, car il s'agit bien d'une épave. À sa seule vue, il est difficile de comprendre qu'elle rentre d'un long voyage. La caravelle est manœuvrée par un certain Sébastien Del Cano qui crie ses ordres aux 18 hommes de l'équipage. Et dire qu'ils sont partis 265. Aujourd'hui, il en manque 247. Presque tous sont disparus en mer, quelques-uns ont déserté, certains sont morts sous les projectiles des sauvages, d'autres ont été exécutés ou débarqués sur des terres désertiques et inconnues, après avoir été jugés selon les lois espagnoles. Et dans cette fin d'après-midi, seule la misérable Victoria mouille dans les eaux tranquilles du port. Des quatre autres vaisseaux, partis fièrement avec elle de Séville, la Victoria est la seule au rendez-vous, la seule au rendez-vous de la réussite. Oui, quatre sont manquants. C'est un bien triste bilan. Oui, mais c'est aussi le prix qu'il a fallu payer pour achever ce fantastique périple. 3 ans d'aventure, le plus long voyage sur mer que l'on ait jamais accompli. Oui, 1081 jours se sont écoulés depuis qu'ils ont quitté Sanlúcar en ce mardi 20 septembre 1519. Le héros de cette épopée, le capitaine Fernão de Magalhães, est mort sur l'île de Mactan. En observant les premiers curieux qui se pressent sur le port, eh bien Pigafetta se souvient. Oui, il était près du capitaine ce jour-là. Il avait tout décrit soigneusement dans son journal. Il était le chroniqueur de l'expédition. Lui seul connaissait tous les détails de cette incroyable odyssée. Il se rappelait. Sur la plage, 1500 indigènes poussaient des cris effroyables. Ils nous attaquèrent de face, mais aussi par les flancs. Nous n'étions que 42. Les autres, 18 seulement, restèrent sur les canaux. Devant le danger, le capitaine divisa les hommes en deux groupes. Des embarcations, nos mousquetaires et nos arquebusiers se mirent à tirer. Cela dura une demi-heure. C'était inutile. Car les projectiles à une telle distance ne pouvaient plus traverser les boucliers. Les balles ne faisaient que des blessures sans gravité à ces sauvages. Le capitaine ordonna alors de ne plus tirer, pour économiser les munitions. Mais personne ne l'entendit. Et puis il y eut une première grêle de flèches. Il était difficile de se défendre. Ils avaient remarqué que si nos bustes étaient protégés, nos jambes ne l'étaient pas. Ils les prirent pour cible. Le capitaine avait le pied traversé par une flèche empoisonnée. Il donna l'ordre de reculer, pas à pas. et presque tous se mirent à prendre la fuite. Oui, nous n'étions plus que 7 ou 8 avec lui. On nous criblait de projectiles, nous étions incapables de résister, nos bombardes étaient incapables de nous aider, l'eau peu profonde empêchait d'avancer les embarcations. En combattant, nous reculions peu à peu. Ainsi, en quittant le rivage, nous avions maintenant de l'eau jusqu'aux genoux. Mais ils continuèrent à nous poursuivre. Ils repêchèrent leurs javelots qu'ils avaient déjà lancés. Ayant reconnu notre capitaine, ils le visèrent particulièrement. À 2 reprises, son casque tomba. Tous, nous sommes restés là avec lui. Nous avons combattu plus d'une heure, jusqu'au moment où notre chef reçut une flèche en plein visage. Dans sa colère, il perça immédiatement la poitrine de son agresseur d'un coup de lance, mais il ne put la récupérer. Le capitaine essaya alors de tirer son glaive hors du fourreau, mais il ne put y parvenir, car un projectile lui avait paralysé le bras droit. Les ennemis se précipitèrent tous sur lui. L'un d'eux le blessa d'un coup de sabre à la jambe gauche. Il tomba, la tête en avant. Ils se jetèrent sur lui et le percèrent à coups de lance. 17 mois s'étaient écoulés. Oui, aujourd'hui le chef, c'était Sebastian Del Cano, le pilote basque. Il ordonna de jeter l'ancre. Quelques minutes plus tard, Pigafetta et ses compagnons descendent ensemble la passerelle en titubant. Tous ensemble, ils tombent à genoux, ils embrassent la terre. À peine débarqué, le premier soin de Del Cano est d'envoyer un message à l'empereur pour lui annoncer l'incroyable nouvelle. Puis, leurs mains saisissent le pain qu'on leur tend. Depuis combien de mois n'ont-ils pas senti cette bonne mie? Depuis combien de jours n'ont-ils pas goûté le vin, la viande, les fruits de leur terre? On les regarde comme s'ils s'étaient échappés de l'enfer. Et si c'était l'enfer? Pigafetta, en mangeant, se remémore ses 100 jours de famine, ses 100 jours de navigation pris entre ciel et mer, ses 100 jours sans voir la terre, jamais. Depuis des semaines et des mois, ils n'ont aperçu aucun nouveau visage. Ils n'ont vu aucune femme, bu aucun vin, pris aucune nourriture fraîche. Et c'est ainsi que les 3 navires, ils n'étaient plus que 3, ces 3 navires voyagent. Ils voyagent pendant 20, 30, 40, 50, 60 jours, sans aucun signe leur indiquant qu'ils s'approchent d'une terre. Plusieurs semaines encore. Cela fait maintenant 3 mois, 3 fois le temps dans lequel Christophe Colomb a traversé l'océan. Les provisions diminuent, la famine s'aggrave. Ce n'est d'ailleurs plus de la nourriture que le préposé aux vivres distribue. C'est infâme. Le vin est épuisé depuis longtemps. L'eau dégage une telle odeur qu'il faut se pincer le nez pendant qu'on boit l'infime quantité qui nous est distribuée chaque jour. Le biscuit qui est avec le poisson que nous pêchons, la seule nourriture, s'est transformé en poudre grise et sale. Il fourmille de verre. Il est empesté par les excréments des rats qui, affolés par la faim, eux aussi se sont précipités sur ces dernières vivres. On fait la chasse à ces rongeurs, non pour s'en débarrasser, mais surtout pour les manger. Pour les manger, il faut les payer aux chasseurs. 1/2 ducat d'or. Certains ont inventé de curieuses et dangereuses recettes. Ils mélangent de la sciure aux déchets de biscuits pour augmenter le volume de leur ration. D'autres mangent la nuit afin de ne plus voir leur nourriture. Certains, puis tous, finirent par manger les morceaux de cuir dont est garnie la grande vergue afin de protéger les cordages contre le déchirement. Après une année, ces morceaux de cuir étaient devenus si durs qu'il fallut les laisser tremper 4 à 5 jours dans l'eau pour les ramollir. Il suffisait alors de les passer sur le feu avant de les manger. Certains en étaient incapables tant ils souffraient du scorbut et tant leurs gencives leur faisaient mal. Oui, tout ça, c'était du passé. Ce soir, ils mangeaient à leur faim. Ensuite, ils allaient pouvoir dormir toute la nuit, tranquillement, pour la première fois depuis des années. Le lendemain matin, la Victoria remonte le Guadalquivir vers Séville. De tous les bateaux qu'ils croisent, on les regarde avec étonnement, on les appelle. Personne ne se souvient plus d'eux. Enfin, on voit au loin la Giralda. La Giralda, c'est cette haute tour carrée de Séville. On aperçoit le port d'où sont partis les 5 bâtiments. Aux bombardes, crie et commande Del Cano. C'est le dernier ordre du voyage. La salve retentit comme au jour du départ. Et l'annonce, nous sommes de retour. Nous avons fait ce que personne n'a fait avant nous. Nous avons fait le tour du monde. Mais quel but avait poussé Magellan et ses hommes vers ces terres inconnues? Le lendemain, on déchargea la Victoria. Sur le quai passait la file des porteurs. Du petit navire, ils descendirent 520 quintaux d'épices. 26 tonnes odorantes, 26 tonnes de richesses que l'on rapportait des lointaines Moluques. La richesse. Oui, la richesse de la cargaison de ce seul navire dédommage amplement de la perte des quatre autres. À condition de ne compter pour rien les 200 marins disparus. Oui, au commencement étaient les épices. Et les épices étaient du voyage. Pour la première fois, une nation, l'Espagne, se donnait des dimensions à l'échelle du globe terrestre. Ce jour-là, le monde basculait. Charles Quint avait 22 ans, Cortés terminait la conquête d'un empire, et 30 ans plus tôt, Colomb découvrait l'Amérique.
Portes ouvertes sur les connaissances, Maurice Efty, vous venez, disons, de tracer une certaine ligne qui a animé, disons, peut-être l'utopie de ces grands navigateurs d'antan. Et ces navigateurs, on peut peut-être les comparer aux astronautes qui ont fait la conquête de la Lune. C'était au fond le départ vers quelque chose d'inconnu. Aujourd'hui, nous en sommes au 5 septembre, le 6 septembre, Christophe Colomb mettait le cap vers l'Amérique en donnant un ordre précis, route à l'ouest, pas au nord et pas au sud. Donc, il côtoyait légèrement l'Afrique et puis il s'est lancé dans la grande aventure. Alors, je voudrais savoir quels furent les événements ou les causes qui ont permis justement à Christophe Colomb de découvrir l'Amérique en 1492.
Oui, bien dans le monde où vivait Colomb, et surtout dans celui qui le précédait, eh bien tout n'était encore que mystère et légende. Il faut bien comprendre que seuls quelques savants avaient repris les anciennes connaissances, on avait repris les travaux d'Aristote à propos de la sphéricité de la Terre. Il était donc naturel de se poser le problème de la navigation autour de cette sphère. On avait parlé de plusieurs légendes qui circulaient. Déjà au Portugal, on avait parlé de ces îles fabuleuses qui étaient situées à l'ouest, les îles Saint-Brandon, les îles au Brésil, la Terre Heureuse. Il y avait Antilia, aussi la petite Atlantide. Et puis on parlait déjà de Cipango, le Japon, ou du Cathay, la Chine. Et partout, on voyait de l'or surtout. Mais avant de partir dans ces régions inconnues, il faut comprendre que les antécédents, par exemple les Vikings, Marco Polo, Nicolas Conti, Ptolémée, Marin de Tyr, enfin ces aventuriers, ces géographes, tous permettaient enfin d'imaginer tout d'abord ce qu'était l'Orient. Aller en Orient, oui d'accord, mais pourquoi pas s'y rendre par le Ponant, ça c'était l'idée nouvelle. Les anciens manuscrits étaient passés des archives aux bibliothèques, oui, on venait de découvrir l'imprimerie, et elle fut pour beaucoup dans la découverte de l'Amérique, car enfin la littérature circulait, même les marins pouvaient lire. Enfin, Colomb lisait et s'instruisait. Il lisait l'Historia Rerum, qui avait été écrite par le pape humaniste Jean II. Il lisait aussi Imago Mundi. Il lisait la Bible, surtout. En particulier, le livre d'Ésaïe et l'Apocalypse de Saint Jean. Il s'inspira peut-être aussi d'Aristote, qui prétendait que les colonnes d'Hercule et l'Inde étaient baignées par le même océan. Enfin, il devait connaître des théories comme celle de Pline l'Ancien, de Ptolémée, de l'astronome, oui, cet astronome arabe très important, Alfragan. Et très tôt, il a été persuadé que la fin des terres habitables vers l'Orient et la fin des terres habitables vers l'Occident étaient assez proches et qu'au milieu, il n'y avait qu'une petite mer. L'idée était dans l'air, et bien maintenant, il fallait la réaliser. Mais combien de mystères subsistaient, oui, on pourrait dire combien de théories, combien d'oppositions furent placées face à Colomb. Car effectivement, à l'époque, il y avait d'abord la fameuse question des antipodes. On se demandait s'il pouvait y avoir des terres émergées dans un hémisphère opposé au nôtre. On se demandait aussi si elles étaient habitées, bien sûr. Mais on pensait surtout que l'océan occupait la majeure partie du globe. Saint Augustin avait prétendu qu'il était impossible que des hommes marchent la tête en bas. Enfin, toutes ces théories nous faisaient bien comprendre qu'il était fort difficile de concevoir le départ pour l'Amérique. Oui, comment Dieu, par exemple, aurait-il permis que des humains soient isolés et ne puissent être atteints par la propagation des évangiles? Eh bien, on savait aussi qu'il y avait des zones torrides ou éventuellement des zones glacées. Tout ceci rendait le voyage impossible. C'est ainsi qu'on pensait au royaume de Castille, mais au Portugal, par contre, dès 1434, on avait déjà doublé le Cap Noun, on était descendu jusqu'à l'équateur, et on avait donc longé ces rives africaines, et on avait remarqué surtout que les tropiques étaient habités et que la mer était navigable partout. Eh bien, Colomb savait qu'il y avait peut-être une terre où il était encore possible de proclamer la bonne nouvelle, c'était son but, un nouveau monde, l'expression est de Christophe Colomb, un nouveau monde non évangélisé. Et il se demandait même si Dieu n'allait pas lui inspirer l'entreprise des Indes. Enfin, Colomb le croyait. Mais Dieu avait besoin à l'époque, oui, Dieu avait besoin d'or pour la reconquête de Jérusalem. En ce temps-là, on pouvait être un homme profondément religieux et avoir un sens des affaires développées. Colomb était de cela, il dira « L'or est très excellent, avec l'or on fait ce qu'on désire en ce monde, grâce à l'or on peut même faire gagner le paradis aux âmes. » Ainsi, en employant l'or au service de Dieu, eh bien, il serait donc possible de racheter des âmes aux infidèles. On comprend aussi qu'à cette époque, la croisade était toujours présente. L'esprit médiéval de l'époque a vraiment pénétré Colomb. Colomb est chevaleresque. Il le restera jusqu'à la fin de ses jours. Il est aussi un Don Quichotte avant la lettre. C'est un illuminé, certainement. Un utopiste, comme on savait l'être avant le temps de la conquête, enfin de la destruction des Indes. Et bien, tous ces rêves d'aventurier, de géographe, d'homme d'église, Colomb a fait peut-être le plus beau des projets, le plus beau des projets utopistes. Les exigences de l'histoire le firent attendre effectivement jusqu'en 1492.
Eh bien, Maurice Efti, vous venez de nous expliquer, disons, l'importance que la religion a joué à cette époque, car il ne faut jamais l'oublier, Isabelle de Castille, Ferdinand d'Aragon, les rois portugais étaient catholiques. Et au fond, la religion a pris un pas important dans toutes ses conquêtes, dans ce qu'elle a été la découverte de l'Amérique et au fond, disons, la reconversion des indigènes. Il faut maintenant situer 1492, une date importante, car le Nouveau Monde s'ouvrait aux Européens. 1492, une date importante, riche en événements pour Christophe Colomb lui-même, mais aussi pour toute l'Espagne. Alors j'aimerais parler justement de l'Espagne par rapport également aux autres rois d'Europe, à tous les conflits qui ont surgi là autour et tout ce qui en découlait.
Oui, le conflit peut-être le plus important de l'année 1492, c'est naturellement, c'était le deuxième jour de l'année, cet événement du 2 janvier 1492, c'est-à-dire l'époque où Isabelle et Ferdinand se trouvaient à Santa Fe, au pied de Grenade, et où Boabdil allait justement abandonner son salon des ambassadeurs, où il allait quitter l'Alhambra. C'est l'Alhambra, d'ailleurs, sur laquelle Christophe Colomb a vu hisser les bannières royales ce jour-là, car effectivement, Grenade était tombée, et le roi Boabdil était sorti par la porte principale, était venu embrasser... baiser les mains d'Isabelle de Castille, de Ferdinand et même de l'infant d'Espagne. Eh bien, à cette époque, il est bien clair que si la reconquête pouvait prendre fin de cette manière, on allait ensuite pouvoir se consacrer à la conquête. Ça, c'était la nouveauté. C'est d'ailleurs à partir de Santa Fe que Christophe Colomb a reçu l'autorisation de partir pour son voyage. Car déjà au mois d'avril, le 17 avril, on lui signait les fameuses capitulations. Ces capitulations qui allaient lui permettre d'obtenir d'abord un poste d'amiral, et même de vice-roi et de gouverneur des Indes. Et ensuite, eh bien, il n'avait plus qu'à se rendre à Palos, où il était déjà au mois de mai, à Palos où, grâce à Pinzón, il allait pouvoir affréter ses trois bateaux, la Pinta, la Niña, et puis cette Santa Maria un peu lourde. Oui, elle avait un tirant d'eau beaucoup trop élevé, et c'est lui qui l'a prise d'ailleurs comme vaisseau amiral. Et maintenant, ce qu'il faudrait aussi comprendre, c'est la difficulté que Colomb a eue à recruter, par exemple, ses équipages. Il est bien sûr que personne ne voulait partir pour une telle aventure, mais le soir du 2 août, c'était un jeudi, Colomb s'était rendu pour la dernière fois dans la petite chapelle de la Rabida, où il a communié, où ses officiers et son équipage sont venus se confesser. Et à l'aube du vendredi, ces bateaux sont séparés dans cette petite rade de Palos. Ils sont descendus le Rio Tinto et ensuite l'Oriel avant de se lancer vers l'océan. Eh bien, le voyage en lui-même a été relativement facile, mais ce qui est intéressant, c'est de se rappeler cette soirée du 11 octobre. Ce 11 octobre, c'était un jeudi. Eh bien, Colomb avait cru apercevoir à l'horizon, tout le monde était fort impatient, avait cru voir à l'horizon une lueur. Et le temps s'est écoulé jusqu'à 2h du matin, oui, c'est en tout cas l'heure qui, d'après son journal, était notée par le sablier. Et vers 2h du matin, eh bien, on a tout d'abord vu un éclair et ensuite une détonation qui partait de la Pinta, le bateau le plus léger, enfin le plus rapide aussi de l'expédition, qui était un peu en avant et qui espérait voir la terre. Et il faut bien comprendre que Colomb avait promis une forte récompense. Et depuis la Pinta, c'est un certain Rodrigo de Triana qui avait aperçu au lointain une ligne claire, une ligne blanchâtre, enfin peut-être une plage. On s'imagine à 2h du matin découvrir un rivage.
Mais à propos justement des navigateurs, de l'équipage qu'il recrutait, est-ce qu'il recrutait son équipage parmi les aristocrates ou bien parmi des aventuriers?
Ce fut un peu plus complexe parce que, disons, à Palos même, la ville de Palos avait reçu l'ordre par les rois catholiques d'offrir à la fois les équipages et les bateaux pour une raison de guerre. Et malheureusement, les gens de Palos n'étaient pas tellement d'accord de partir et il a pris un peu ce qu'il trouvait. C'est-à-dire que dès que les frères Pinson, Vincent et son frère se sont liés à Colomb dans cette aventure comme futurs capitaines, puisque c'est eux qui ont été les capitaines de cette Pinta et de cette Niña, eh bien, obligatoirement, la ville de Palos a un peu changé dans la réaction. Les marins du port, les gens inactifs du port, ont été petit à petit d'accord de s'engager pour cette aventure, moyennant naturellement finances, enfin futures finances. Et bien sûr, quand ces bateaux, au petit matin du 12 octobre, ont découvert la terre, après cinq semaines de voyage, ces cinq semaines qui ont été longues d'espérance, eh bien, il a suffi d'aller sur la plage, et là, on a tout d'abord remarqué ces indigènes, les premiers, ces indigènes nus, et l'amiral a fait planter d'abord la bannière royale, et puis les deux capitaines sont arrivés avec ces étendards qui portaient des croix vertes avec les deux initiales, enfin le F et le Y, Isabelle et Ferdinand Castille. Et tous ont d'abord remercié le ciel, c'était normal, c'était comme ceci que chaque découverte était pratiquée sur le plan religieux d'abord. Et ensuite, immédiatement, quand ils ont vu que les indigènes portaient des plaquettes d'or aux narines ou aux oreilles, Colomb a immédiatement conçu la possibilité de l'échange en leur offrant des verroteries de Venise ou des petites clochettes. En tout cas, Colomb disait, je ne puis manquer, avec l'aide de Dieu, de trouver l'or où il existe. En tout cas, il le chercha.
Rappelle notre numéro de téléphone 022 20 98 11 si vous avez des compléments à nous apporter ou bien des interrogations au fond de vous-même par rapport, disons, à cette traversée de l'Atlantique. Maurice Efti, après le retour de Christophe Colomb, je voudrais savoir quelles furent quand même les réactions d'une part de Ferdinand d'Aragon, d'autre part d'Isabelle de Castille, et comment on a accueilli la révélation de ce nouveau monde qui permettait au fond à l'Espagne d'avoir une colonie très importante au-delà de l'océan.
Oui, il est bien difficile de s'imaginer ce bouleversement qui d'abord était mental, bien sûr, mais surtout économique. Ces révélations ont bouleversé non seulement l'Espagne, mais ensuite, petit à petit, toute l'Europe.
Le monde.
Le monde entier, bien sûr. Mais si un demi-siècle après Colomb, on prétendait encore que, à part la naissance du Christ et sa mise au tombeau, la chose la plus importante au monde, c'était la découverte de l'Amérique. Ceci prouve à quel point, disons, l'histoire de Christophe Colomb l'a rendu non seulement célèbre, mais a surtout touché l'ensemble des savants et des cours royales d'Europe. Eh bien, après 7 mois d'absence, ils sont revenus effectivement à Palos, et à l'époque, les souverains étaient à Barcelone. Alors, juste pour s'imaginer un peu la réaction du peuple, enfin de l'Espagne, à l'arrivée de Colomb, eh bien, Colomb a dû traverser toute l'Espagne en un mois. Alors, ce fut l'occasion d'un cortège absolument triomphal, et on a beaucoup de peine à s'imaginer ces Indiens tatoués, peints en rouge. Qu'est-ce qu'il avait ? Il avait également des milliers de trésors, enfin des plaquettes d'or et tout ceci, mais surtout par exemple les perroquets multicolores, il y avait des boucliers, des lances, enfin tout ce qui sur le plan ethnographique avait intéressé Colomb, ces décorations de plumes, de coquillages, il y avait des noix de coco aussi, et puis les premiers cigares. Enfin, ensuite il y avait le trésor, bien sûr, des bracelets d'or, des colliers, des perles, enfin tout ceci faisait dire à la foule qu'effectivement on avait trouvé les légendaires îles d'Orient qui leur permettaient un jour de devenir si riches. Et Colomb, Il suivait derrière à cheval avec ses deux fils et à Barcelone, lorsqu'il a été reçu par Isabelle et Ferdinand de Castille, il a simplement promis au roi catholique que lors du prochain voyage, il allait leur apporter assez d'or pour pouvoir armer 4000 chevaliers et 50 000 soldats afin de reprendre le Saint-Sépulcre. On comprend mieux un peu le genre d'obsession, disons, qui habitait Colomb. Effectivement, l'idée de la croisade, mais on comprend aussi que dès les premiers événements de 1492, au retour de Colomb l'année suivante, eh bien, tout le monde voulut traverser la mer. Quand on pense à la seconde expédition de Colomb, elle est incroyable, dans la mesure où là, dès le départ, on a quitté l'Espagne avec 1500 personnes.
Donc, quand il a découvert la Martinique.
Lorsqu'on est parti pour la seconde fois, ouais. Le second voyage de Colomb, il y avait non seulement 1500 personnes, mais il y avait même 300 passagers clandestins.
Donc, ceux qui voulaient fuir peut-être l'Inquisition.
Peut-être, mais en général, ceux qui voulaient surtout obtenir toutes ces richesses. Enfin, ces bouleversements étaient déjà en gestation à partir de 1492. On pourrait comprendre aussi l'idée de cette concentration qui a eu lieu sur cette année 1492, l'union de l'Espagne, bien sûr. Ensuite, il y a eu la concurrence avec le Portugal, qui était très forte.
Vous parliez des cours
étrangères. Le roi de France a été,
Louis XI.
Oui, a été un peu mis de côté, un peu comme pour Charles VIII. Les influences ont été surtout à partir de guerre, à partir de l'Italie et tout ceci, n'a eu que fort peu d'influence quant à la découverte elle-même. La France, l'Angleterre à l'époque, n'était pas encore des puissances, au sens maritime du terme, importantes.
Et l'Italie ?
L'Italie, par contre, était en train de perdre l'Orient puisqu'elle l'utilisait surtout à partir des caravanes, comme Venise, par exemple, qui avait une route de l'Orient en opposition totale à celle du Portugal et de la future Espagne. Enfin, cette union de l'Espagne dont on a parlé, cette concurrence du Portugal, la prise de Grenade, bien sûr, et surtout l'expulsion des Juifs, l'Inquisition, ensuite cette découverte et le retour de Colomb, eh bien, tout ceci va être important. Il faut comprendre aussi comment vivait Ferdinand à l'époque et quelles étaient ses idées. Ferdinand pensait aussi à l'Afrique, il pensait bien sûr à l'Asie. Il était appuyé par tout un clan de conversos. Ces conversos, ce sont ces juifs qui étaient nouvellement convertis et qui, eux, avaient justement la puissance de l'argent, c'était des commerçants, et près de lui, ils ne risquaient rien. Même le trésorier, d'ailleurs, qui avait financer l'expédition de Colomb était aussi un conversos. Tout s'est concentré, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur Santa Fe. On avait ici l'idée non seulement de profit, mais cette espèce de soif de l'or, et puis surtout l'espoir des épices, qui a quand même été le premier des espoirs. L'or est venu juste après, lorsqu'on l'a trouvé.
Sans oublier le tabac, donc...
Bien sûr.
Aujourd'hui, on nous dit de ne pas fumer, mais à l'époque, on disait que qui vit sans tabac est indigne de vivre.
Absolument.
Et puis le caoutchouc aussi.
Oui, ça c'est venu plus tard, au moment où on a découvert le sud. Mais ce voyage, on a beaucoup de peine à s'imaginer le système d'achat et de vente d'une expédition à l'époque. Colomb a coûté à peu près 14 ou 15 kilos d'or pour monter son expédition. On pensait peut-être effectivement dès le départ en avoir davantage. C'est-à-dire que même avec un seul chargement, comme celui de Magellan dont nous parlions tout à l'heure, on arrive à rembourser complètement une expédition et à faire quelques bénéfices. Et il faut aussi comprendre que si le Portugal était prêt à ouvrir la porte des découvertes, l'Espagne n'avait qu'à continuer dans cette même voie. Et cette Espagne allait surtout déclencher quelque chose de tout à fait nouveau, c'est-à-dire la conquête.
Peut-être rappeler à nos auditeurs qui nous suivent dans ces portes ouvertes sur les connaissances que dans quelques 10 minutes, nous leur donnerons la première question de ce concours qui leur permettra par la suite de visiter culturellement le Mexique. Mais nous en sommes toujours à la découverte de l'Amérique. Christophe Colomb, nous ne l'oublions néanmoins pas, il était génois, il était donc italien, mais c'est l'Espagne qui a eu l'honneur, disons, de planter son drapeau au-delà de l'océan, car c'était Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon qui ont quand même financé, disons, cette traversée de l'Atlantique.
Indirectement. C'est-à-dire qu'à partir de la prise de Grenade, ils se sont déchargés sur d'autres personnes pour payer l'expédition de Colomb. Colomb en a d'ailleurs payé une partie en trouvant lui-même de l'argent auprès de banquiers italiens, bien sûr. Car il avait toujours gardé de nombreuses attaches avec sa ville natale. Et c'est vrai aussi que pour le départ de Colomb, on peut comprendre qu'il y a eu tellement de bouleversements après son arrivée dans ces Antilles, dans cette Amérique. C'était surtout dû à l'empressement, un empressement à s'enrichir, à cette espèce d'avidité terrifiante des tout premiers colons. Et bien sûr, très vite, on va déboucher sur un véritable génocide aux Antilles.
Mais est-ce que, Maurice Sefti, il y a eu quand même des prophéties par rapport à cette traversée?
Prophéties Colomb était lui-même un prophète, c'est-à-dire toutes les prophéties étaient reprises en principe de textes anciens ou reprises directement à partir de faits bibliques. Effectivement, Colomb a retrouvé sur le plan prophétique énormément de possibilités.
À travers la Bible.
Absolument.
Qu'il disait.
Il l'interprétait, c'est-à-dire lui-même se prenait éventuellement pour quelqu'un de prophétique et d'aidé par la divine providence. Eh bien, il faut comprendre aussi, là, puisqu'on reprend les Antilles, l'importance des pratiques de l'époque. Il y a eu tout d'abord l'esclavagisme, bien sûr, cet esclavagisme qu'avait adopté Colomb, qu'il a même lancé en Amérique. Il y a eu les travaux forcés, bien sûr, il y a eu aussi cette dépossession des terres, ces tribus, des tribus exorbitantes qui étaient exigées aux indigènes. Mais ce qu'il faut surtout comprendre à partir de la légende noire qu'on a faite sur l'Espagne, c'est qu'en définitive, pour l'époque, tout ceci n'était que chose bien, bien naturelle. Seul quelqu'un comme Bartolomé de las Casas va susciter quelques scrupules à l'époque, surtout à cause de ses rapports. Il avait des rapports exaltés en faveur de la défense des Indiens, de ces Indiens. Et en définitive, il a été très peu écouté, bien sûr, et au contraire, il a plutôt été repoussé par les premiers colons. Dès 1492, il faut aussi saisir que non seulement l'Espagne aurait pu faire cette conquête, mais n'importe quel autre pays d'Europe. Vous avez cité tout à l'heure la France ou l'Angleterre, mais mon Dieu, je crois que le système colonialiste est assez général en Europe.
Oui.
L'Espagne n'a fait que l'inventer. Et mon Dieu, il faut comprendre aussi que les droits de l'homme sont arrivés beaucoup plus tard. Il n'en était pas question au XVIe siècle.
Vous en parlerez d'ailleurs.
Comment ?
Vous en parlerez d'ailleurs.
Bien sûr, c'est d'ailleurs dans de telles conditions que sont apparus les premiers latino-américains. Colomb, c'était un homme de son temps, tout simplement. Il était mystique, c'est vrai, il était un utopiste exalté, il était imbu de sa mission basée sur les évangiles. Enfin, il a été très vite dépassé, oui, il a été dépassé par sa propre découverte, Colomb. Enfin, le phénomène colonial lui a complètement échappé. Il avait d'abord admis cet esclavage, mais il comprenait avec beaucoup de peine les ambitions des premiers colons, les abus de ces premiers colons. Enfin, on peut dire en tout cas qu'il est resté un homme profondément religieux, un idéaliste, c'est certain, mais aussi un homme avide. C'est assez normal, enfin, dans ces années 1500.
Humain.
Oui. Les découvreurs avaient terminé leur tâche, mais maintenant c'était justement l'ère des conquérants qui s'ouvrait.
Pour ceux qui nous demandent le texte de cette émission, eh bien, nous leur répondons tout de suite qu'il n'est pas possible, car on est quand même en train de dialoguer. Néanmoins, nous avons à votre disposition les sources bibliographiques qu'on peut vous faire parvenir, et là, vous trouverez, disons, l'essentiel de ce qu'on a dit ce matin. Viviane Mermogasser, puisque vous serez le guide le 2 octobre, lors de la prochaine émission avec Maurice Efti, j'aimerais que vous posiez la question numéro 1 de ce concours qui permet à nos auditeurs de gagner un voyage culturel au Mexique.
Alors cette question, la voici. À l'escale aux îles du Cap-Vert, sur la Victoria qui rentrait des Moluques, Pigafetta, le brave chroniqueur italien de Magellan, a réussi à vivre au dernier moment une des expériences pour lesquelles il avait entrepris cette expédition. Là, il observe pour la première fois, grâce à son journal, un phénomène qui, par son importance et sa nouveauté, excitera l'intérêt du monde entier. Pigafetta dévoilera un secret qu'aucun sage de l'Antiquité n'avait soupçonné. Alors la question est celle-ci, quelle était cette nouvelle connaissance qui fit tant parler les humanistes du XVIe siècle? Si vous avez trouvé la réponse, vous nous l'écrivez d'ici à jeudi prochain 11 septembre, Le Temps d'apprendre, Radio Suisse Romande, 1211, Genève 8.
Maurice Efti, nous vous retrouverons le mois prochain en compagnie de Viviane Mermogasser pour aborder le chapitre des conquérants par François Pizarro.
Oui, nous allons surtout parler de Francisco Pizarro, de sa vie, enfin ce qui précède la conquête du Pérou. Il a une vie absolument passionnante, ce Pizarro, et je souhaite que nous puissions le faire sous forme de dialogue et qu'à bien l'occasion, sûr. Il y ait aussi, disons, une formule à base de questions, bien sûr.
D'accord. Et puis, il y aura en plus ce quart d'heure sur demande sur Radio Suisse Romande 1 pour permettre aux auditeurs, aussi du premier programme, de participer au concours et de bénéficier ainsi d'un voyage culturel au Mexique. Quant à lundi prochain, nos portes ouvertes s'ouvriront comme toujours sur l'école. Jean-Claude Gigon et ses invités essayeront de préciser le rôle du concierge, ce personnage qui est à la fois l'ami et le censeur et qui est un lien entre la famille et les autorités scolaires. Je vous souhaite une bonne fin de matinée et dans quelques instants, la Minute Écuménique.